VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 3 mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Nous commençons par les titres.
Au Mali, 9 soldats tués dans une embuscade hier dans le centre du pays.
Au moins 8 migrants, dont 5 enfants, ont été retrouvés morts dans le désert nigérien.
Au Libéria, 12 personnes ont été tuées par une maladie non identifiée et des cas sont enregistrés à Monrovia, la capitale.
Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Amnesty International demande le rétablissement sans condition du signal de RFI à Kinshasa.
Entretien téléphonique hier entre le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.
Attentat contre les forces étrangères à Kaboul, au moins 8 morts. Et ne manquez pas le reportage de Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad. Notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal.
Au Mali, 9 soldats ont été tués, 5 grièvement blessés et une dizaine portés disparus lorsqu'un convoi du groupement tactique Interam Balazan est tombé mardi dans une embuscade. C'était dans la zone de Nampala, dans le centre du pays. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Il était 13h10 lorsque le groupement tactique Interarm Balanzan revenait de Nara. Il mettait le cap sur Nampala. Après avoir dépassé Djabali de 35 km, soudain une mine explose, détruisant deux véhicules et les auteurs de ce forfait étaient cachés non loin de la forêt de Ouagadou, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Juste le temps de l'explosion de la mine, s'en sont suivis des tirs nourris d'armes lourdes et automatiques. Les assaillants que les témoins qualifient de terroristes tiraient sur tout ce qui bougeait. Les soldats du convoi qui étaient derrière ont répliqué, mais face à la puissance de feu des terroristes, ils ont été contraints à se replier et pendant ce temps, les terroristes ont disparu dans la nature. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 9 soldats maliens tués, 5 grièvement blessés, 2 véhicules détruits, un autre emporté et une dizaine de soldats portés disparus. A noter qu'il y a juste une semaine, plusieurs dizaines de pick-up terroristes lourdement armés ont été aperçus dans les environs de Nara, Banamba et Djoura. Les populations de ces localités avaient alerté les autorités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au moins 8 migrants, dont 2 femmes et 5 enfants, ont été retrouvés morts dans le désert nigérien. Ils tentaient de se rendre en Algérie voisine, devenue une destination privilégiée pour les migrants subsahariens. Une source sécuritaire nigérienne a indiqué hier que les migrants étaient tous des Nigériens et qu'ils avaient été abandonnés par un passeur. Sans secours et sans repère, ils sont tous morts de soif, a expliqué la même source. Les enfants décédés était âgé de 6 à 12 ans.
Le Libéria a enregistré, y compris dans sa capitale, Monrovia, de nouveaux cas de la maladie non identifiée, provoquant fièvre et vomissements. Cette maladie testée négative à Ebola a fait 12 morts en moins de 10 jours, selon le ministère libérien de la Santé.
Le 3 mai est la Journée mondiale de la liberté de la presse. Hier, Amnesty International a appelé les autorités congolaises à rétablir sans condition le signal de RFI à Kinshasa. John Linden.
Le signal de RFI est coupé depuis le 5 novembre 2016 à Kinshasa, alors que devait se tenir une manifestation interdite de l'opposition contre le président Joseph Kabila. L'ONG des défenses et des droits de l'homme dénonce donc cette coupure arbitraire et prolongée et demande sa réouverture sans condition. Dans ce texte publié la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Amnesty exhorte également les autorités congolaises à garantir et protéger les libertés de la presse et de l'information. Amnesty, citant Reporters sans frontières, a noté qu'en RDC, les professionnels des médias sont régulièrement arrêtés arbitrairement, tabassés, humiliés, leur matériel saisi. Le pays occupe la 154e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. Pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, on ne s'adresse pas à un gouvernement par voie de communiqué de presse. La RDC ne réagira donc pas à cet appel.
Et puis, plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition, aiguë cette année en Somalie, pays au bord de la famine et qui court donc des risques très élevés de mourir, a averti mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. La projection du nombre d'enfants qui souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë a augmenté de 50% depuis le début de l'année à 1,4 million, a déclaré une porte-parole de l'UNICEF, Marixi Mercado, précisant qu'il s'agissait de projections pour 2017. Plus de 275 000 d'entre eux souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë sévère l'année prochaine, a-t-elle précisé lors d'un point de presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un attentat a visé ce matin un convoi de troupes étrangères patrouillant près de l'ambassade américaine dans le centre de Kaboul, faisant 8 morts et une vingtaine de blessés pour la plupart des civils, ont indiqué des responsables afghans. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.
Conversation téléphonique mardi entre le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. C'était la première conversation entre les deux leaders depuis que la Russie a condamné les tirs de missiles américains contre une base syrienne. Les précisions, Lionel Gaïma.
Les présidents Trump et Poutine ont discuté de la guerre en Syrie, rapporte la Maison-Blanche qui qualifie cette conversation de très bonne. Des responsables du Kremlin cités par les médias russes parlent de leur côté d'une conversation sérieuse et constructive. Toujours selon le Kremlin, les deux parties ont convenu que leur chef de diplomatie, Rex Tillerson et Sergei Lavrov, intensifient les discussions pour un cessez-le-feu en Syrie. Les présidents Trump et Poutine sont d'avis que la souffrance a trop duré en Syrie et que toutes les parties doivent tout faire pour mettre un terme à la violence, a fait savoir la Maison-Blanche. La Russie organise des pourparlers sur la Syrie ce mercredi à Astana, au Kazakhstan. Les États-Unis enverront un représentant à cette rencontre à laquelle participeront l'Iran et la Russie. Une précédente série de négociations conjointement organisées par la Russie et les États-Unis sous l'administration Obama n'avait rien donné.
Par ailleurs, le président Trump reçoit pour la première fois aujourd'hui à la Maison-Blanche Mahmoud Abbas, le président palestinien. Les observateurs ne s'attendent pas à une percée malgré les déclarations optimistes de M. Trump et de M. Abbas lui-même quant à un éventuel accord de paix historique entre Palestiniens et Israéliens. On fait remarquer que selon des sondages, 2/3 des Palestiniens souhaiteraient la démission de M. Abbas en raison de l'absence de résultats après 12 ans à la tête d'une autorité palestinienne minée selon eux par la corruption.
Les expulsions d'immigrés clandestins se sont ralenties aux États-Unis au cours des trois premiers mois de l'administration Trump, malgré la promesse du nouveau président américain de donner un coup d'accélérateur au renvoi des sans-papiers. Bagassi Koura.
Selon la police des frontières, 54 564 personnes ont été expulsées des États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Cela représente un repli de 12% par rapport à la même période de l'année dernière. L'administration Trump a néanmoins renforcé mi-avril ses moyens pour traquer les clandestins jusqu'à ordonner de les arrêter dans les villes ou les lieux qui ont choisi de les protéger. Les données de l'organisation indépendante Track Immigration montrent que les tribunaux croulent sous le poids des dossiers et des cas d'expulsion. Ces dossiers ont bondi à 540 000, soit environ 100 000 de plus que fin 2015. Il faut en moyenne 600 jours pour boucler un dossier. Donald Trump a promis d'expulser 11 millions de personnes vivant illégalement aux États-Unis et s'est engagé à commencer avec ceux qui ont des démêlés avec la justice américaine.
Présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront enfin face à face ce soir lors d'un débat télévisé en direct à 4 jours d'un scrutin qui pourrait changer la place de la France en Europe. Jacques Aristide.
Le débat va durer environ 2h30. Les candidats ont allégé leur agenda pour préparer ce duel décisif. Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir laisser à son adversaire du Front National la possibilité de continuer à dire des contre-vérités dangereuses. Marine Le Pen assure pour sa part qu'elle défendra ses convictions et une politique totalement différente, dit-elle. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec son adversaire surprise. Le fondateur du parti d'extrême droite et père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Mais Chirac avait bénéficié à l'époque d'un front républicain qui lui avait permis d'être réélu avec plus de 80% des voix et qui cette fois a volé en éclats. Emmanuel Macron, arrivé en tête avec son parti En Marche au premier tour le 23 avril, veut solidifier l'avantage de 20 points dont le créditent les sondages sur sa rivale. Il tente d'attirer les électeurs du candidat Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième au premier tour. Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote. Après avoir effectué une visite surprise le 26 avril à une usine Whirlpool, Marine Le Pen, elle, essaie de présenter son adversaire comme le candidat de la finances et des salles de marché.
Au moins 45 civils ont été tués hier dans une attaque surprise du groupe État islamique non loin d'un camp de réfugiés du côté syrien de la frontière avec l'Irak. C'est ce que rapportent les victimes et des officiels kurdes syriens. Cette attaque a eu lieu avant l'aube lundi dans une zone où les réfugiés syriens et irakiens fuyant les territoires tenus par les djihadistes se rassemblent avant d'être autorisés à entrer dans la région sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie. L'attaque a été perpétrée par au moins 5 kamikazes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
La Minute Éco d'Ilidico.
Au Ghana, les États-Unis vont fournir une aide financière d'un montant de 238 millions de dollars. Selon Robert Porter Jackson, ambassadeur des États-Unis à Accra, cette aide a pour but de soutenir l'économie du pays. Elle sera principalement consacrée à stimuler les activités dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrialisation pour créer davantage d'emplois. Kenya. Deux ans après le début des revendications pour l'augmentation du salaire minimum, il vient de passer de 106 à 125 dollars. À l'approche des élections présidentielles prévues en août prochain, le président sortant, Uhuru Kenyatta, a ordonné la hausse du revenu minimum. Dans son discours pour la fête du travail, il a également annoncé l'augmentation du revenu imposable à 130 dollars. Le Cameroun vient de lancer une plateforme visant à dénoncer les abus et les litiges fonciers. Le Centre d'environnement durable de Yaoundé explique que cette initiative ne permettra pas de trouver des solutions systématiques, mais elle aura un effet dissuasif sur les comportements répréhensibles d'organismes publics et privés.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Première demi-finale en Ligue des Champions, Real a remporté le derby madrilène.
Oui, 3-0, 3 buts de Cristiano Ronaldo. L'Atlético n'a donc pas résisté au merengue au Santiago Bernabéu. Le match retour est attendu le 10 mai à l'antique Vicente Calderon.
Ce soir, Monaco face à la Juventus.
Oui, disons les perceurs contre le coffre-fort. C'est aussi les 146 buts marqués par Monaco en 57 matchs contre la meilleure défense d'Europe. La Juve n'a été trompée que deux fois dans cette campagne de C1 et la réaction du gardien italien à ces deux buts est éloquente et résume parfaitement sa culture défensive et celle de la Juventus. On aurait pu les éviter. Après tout, l'AS Monaco a mis trois buts à chaque match contre Manchester City et le Borussia Dortmund.
La FIFPro veut une enquête et des mesures fortes sur la situation du Ghanéen Muntari.
Oui, le syndicat international des joueurs professionnels estime que le milieu de terrain ghanéen de Pescara, Soule Muntari, a été victime d'insultes racistes et que sa situation a été mal gérée. La FIFPro a donc exhorté hier les instances italiennes à enquêter et à prendre des mesures fortes. Selon le compte-rendu du match fait par la Ligue italienne, Muntari a également reçu un carton rouge après la partie.
En transfert, Tiemoué Bakayoko dément tout contact avec le Paris Saint-Germain.
Son frère et conseiller Abdoulaye Bakayoko a totalement démenti une quelconque rencontre entre le milieu de terrain international de Monaco et le Paris Saint-Germain. Enfin, Idrissa, la NBA, les play-offs se poursuivaient hier soir.
Oui, et Boston a battu Washington 129 à 119. Boston mène ainsi 2-0. Et puis, ça c'était pour la conférence Est. Pour la conférence Ouest, Golden State, oui, a battu Utah 106 à 94 et mène la série 1-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Suite de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad, ce matin, l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinault, nous parle de la situation des personnes déplacées par la violence de Boko Haram dans la région de Bagassola au Tchad. Nicolas.
Assis sur des nattes, posés sur le sable brûlant, ces déplacés tchadiens attendent. Attendre, c'est leur activité principale dans ce camp situé à quelques kilomètres à la sortie de Bagassola. Attendre l'aide alimentaire distribuée une fois par mois ou attendre l'ouverture du centre de santé. Ces tchadiens sont chez eux, mais comme 120 000 déplacés autour du lac Tchad, ils ont fui les atrocités de Boko Haram il y a 2 ans déjà. Idriss Adam est un colosse de 40 ans. Il a quitté son village de Boularigui.
Boko Haram a attaqué le village et a mis le feu aux maisons. On est parti parce qu'ils ont égorgé plus d'une dizaine de personnes. Moi, j'ai perdu mon plus jeune frère. On s'est sauvé à travers les îles du lac.
Dans le camp voisin de Darnaïm, Saleh Youssouf a une histoire à peu près similaire. Ce berger nomade est revenu au Tchad après 30 ans d'absence. Il avait fui la DDS de Hissène Abré dans la région du Bata dans les années 90. Après avoir erré entre le Nigeria, le Niger et le Cameroun, Saleh Youssouf a dû rentrer au pays après avoir croisé la route de Boko Haram.
Boko Haram a bloqué notre passage et nous a dit « Si vous passez, on vous tue ». J'avais des chameaux, des chèvres, des bœufs, etc. Boko Haram est venu et m'a dit « Si tu veux vivre normalement, viens avec nous. Sinon, tu dois tout abandonner et partir. » C'est ce que j'ai fait. J'ai fui.
Ces Tchadiens et leurs familles, qu'ils soient déplacés ou retournés, n'espèrent pas forcément rentrer chez eux. Loin de tout service public et de la protection de l'État face aux djihadistes, ils ont trouvé dans les camps un semblant de normalité, notamment la sécurité et l'accès à l'école pour les plus jeunes. Écoutons Dimouya Swapébé, il est le préfet du département de Kaya.
Nous ne sommes pas très sûrs que tout le monde sera demandé à repartir parce que la présence de l'État faisait problème. Il y avait des difficultés dans l'accessibilité dans différents coins des îles du lac Tchad. Donc à ceux-là, nous avons l'intention de leur aménager leur site de déplacer là pour leur nouveau village. Et nous allons toujours appeler la communauté humanitaire à les appuyer là pour que ça soit leur nouvelle maison, leur nouveau village.
Les derniers combattants de Boko Haram sont retranchés dans les îles du lac Tchad ou l'état de Borno. Leur défaite probable prendra encore des mois, mais les déplacés de Bagassola ne souhaitent pas retourner dans leur village et vivre une nouvelle incertitude. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En République centrafricaine et selon Human Rights Watch, 45 personnes ont été tuées et 11 000 déplacées ces 3 derniers mois suite à des attaques de groupes armés contre des civils. La République centrafricaine, comme vous le savez, sort à peine d'une guerre civile meurtrière. Pour un état des lieux, Solange Niamoulissa a joint Louis Madge, chercheur à Human Rights Watch, de la division Afrique.
Donc, l'image Human Rights Watch, on continue d'être tellement inquiété par rapport à la situation au centre du pays. Depuis la fin de 2016, il y a deux groupes des ex-sélecteurs qui continuent de s'affronter entre eux. Et le niveau de cette violence continue d'augmenter. Donc, en novembre 2016, en décembre 2016, en janvier et en mars 2017, et maintenant en avril et mai 2017, on a constaté plusieurs dizaines de civils qui étaient tués et ciblés d'ailleurs par des groupes armés. Lorsqu'on parle de groupes armés dans cette zone, on parle de deux groupes des ex-sélecteurs, les FPRC et les UPC. Donc, bien sûr, il y a la présence des Nations Unies, mais selon New Human Rights Watch, nouveau de gens qui continuent d'être tués, c'est complètement inacceptable.
Et pourquoi la reprise des violences?
La reprise des violences, bon, c'est entre deux groupes des ex-sélecteurs. Ils ont commencé de s'affronter par rapport au contrôle de mines dans la zone. La province de la Waka, c'est une zone avec beaucoup de mines d'or. Donc, ils ont commencé de s'affronter entre eux au mois de novembre 2016 par rapport de contrôler les mines.
Et est-ce que vous pensez que le pays risque de basculer de nouveau dans une guerre civile?
Bon, c'est difficile de dire que, en fait, il n'y a pas une guerre civile actuellement. Le pays ce n'est pas stable. Le capital, Bangui, et le sud-ouest du pays, ils sont plus ou moins stables là-bas. Mais le nord-ouest et le centre du pays, on ne peut pas dire que c'est stable. Au sud-est, nous avons toujours la présence de la LRA de Ouganda. Et les forces ougandaises et les forces américaines viennent annoncer qu'ils vont quitter cette zone. Donc ça va créer encore le travail pour les MINUSCA, pour les forces onusiennes de faire. Parce que le sud-est, on estime que le sud-est, ça va être très chaud très bientôt.
C'était Louis Madge, chercheur à Human Rights Watch, division Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Burundi, beaucoup d'activités sont paralysées par une pénurie de carburant qui dure depuis plusieurs jours dans la capitale Bujumbura. Cette situation est due au manque de devises, selon le gouvernement, alors que le pays est plongé depuis 2 ans dans une grave crise politique. Tous les quartiers de la mairie et aussi certaines provinces de l'intérieur sont affectés. Reportage de notre correspondant sur place, Christophe Kourounziza.
Files d'attente des camions, véhicules de transport et eaux privées sur les différentes stations essence au centre-ville de Bujumbura sont visibles depuis la semaine dernière. Mais cette carence est aussi observée dans les quartiers au sud et au nord de la capitale où pour avoir du carburant, il faut au moins garer sa voiture toute une journée pour les plus chanceux. Entre-temps, un commerce frauduleux d'essence est observé dans les quartiers cosmopolites de Bouyenzi et de Biza et dans d'autres localités de Bujumbura et des provinces de l'intérieur du pays. Le lit d'essence qui coûte normalement 2100 francs burundais, soit plus de 1 dollar, et vendu au marché noir 6000 francs burundais, soit presque 3 dollars américains. La semaine dernière, les ministres de l'énergie et des mines avaient indiqué devant le Parlement burundais que le manque de devises était la cause principale de cette pénurie de carburant. Il a aussi ajouté que bien de commerçants burundais ou étrangers ont une spéculation de carburant, surtout que la frontière burundo-congolaise, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Bujumbura, est poreuse. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Retour sur le rhinocéros, espèce menacée d'extinction. La Côte d'Ivoire tente de protéger le seul animal qui en reste en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Ibrahim Tunkara.
Il y a une vingtaine d'années, l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk offrait à son homologue ivoirien Félix Houphouët-Boigny un couple de rhinocéros blancs. De ce couple est né un jeune rhinocéros. Si l'on est jusque-là sans nouvelles du couple, sans doute tué par des braconniers, le petit rhinocéros a quant à lui grandi et erre dans des villages dans la région de Dimokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Seulement voilà, la mort il y a quelques semaines d'un chef de village tué par ce rhinocéros va rendre la cohabitation difficile. L'inquiétude s'est emparée des villageois qui veulent en découdre avec l'animal. Pour le gouvernement ivoirien, il faut sauver aussi bien les villageois que le rhinocéros, d'où le transfert dans quelques jours de l'animal vers un parc privé. Un transfert qui sera mené par des spécialistes sud-africains. Louis Diakité, propriétaire de la réserve qui va accueillir le rhinocéros.
On fait venir une équipe de vétérinaires experts d'Afrique du Sud pour s'assurer qu'elle sera faite dans de très bonnes conditions. Ensuite, il y a la capture, le transport, le réveil. Ce sont des opérations très très délicates, donc qui peuvent être faites que par des experts. Ensuite, il sera en quarantaine pendant un certain moment, dans ce qu'on appelle un boma, où on va le nourrir avant de le relâcher à l'état naturel.
Pour le directeur général des eaux et forêts, en plus du rhinocéros, D'autres espèces sont également menacées dans les forêts ivoiriennes.
Les lions, on a des traces mais on ne les voit plus. Et c'est ce qui nous a amené à importer des lions d'Afrique du Sud qui sont aux zoos aujourd'hui. Et déjà, nous avons eu 8 lionceaux. Il y a les panthères qui sont en voie de disparition. Il y a les pangolins qui sont en voie de disparition. Et surtout l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire qu'on doit protéger à tout prix. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une nouvelle loi sur la faune et sa protection pour encadrer mieux encore la protection de ces animaux. Mais aussi, il faut que nous puissions sensibiliser les populations que ces espèces-là sont protégées intégralement.
Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! To get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them we are. Show them.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Daniel Brown pour la mise en onde, Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.